Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir autour de la première lecture de dimanche prochain, qui sera un extrait du Livre de la Sagesse. Le Livre de la Sagesse est un des livres que l'on appelle deutérocanonique, c'est-à-dire l'un de ces livres dont on ne possède qu'un original grec et qui a vraisemblablement été écrit en grec. Alors qu'il faisait partie de la Septante, communément acceptée à l'époque de Jésus, le canon hébraïque, par la suite, avec l'avènement du christianisme, se mit à refuser les livres dont il n'existait qu'un original grec et qui n'avait pas d'originaux hébreux. On ne le trouve donc pas dans la Bible hébraïque, et les protestants ne le reconnaissent pas non plus comme un livre inspiré. Ce livre que catholiques et orthodoxes reconnaissent dans le canon des Écritures a été écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ, et peut-être même sa rédaction s'est-elle prolongée au tout début du 1er siècle. Notre première lecture réunit deux extraits d'un passage sur la destinée humaine selon Dieu. Il nous invite à réfléchir sur la mort et sur l'origine de la mort. Lisons ensemble le texte. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde, ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Les versets du chapitre 1, 13, 14 et 15 sont des versets qui manifestent le dessein de vie du Seigneur, que le dessein créateur de Dieu est un dessein, est un projet de vie. Mais pourtant, il y a quelque chose qui nous surprend lorsque l'on dit que Dieu n'a pas fait la mort. En effet, nous avons bien l'impression que la mort est un processus naturel. Nos cellules vieillissent, se corrompent, finissent par mourir. C'est le cycle de la vie. Et d'ailleurs, même en métaphysique, on affirme que ce qui a commencé à être, ce qui est venu à l'être un jour, eh bien, si c'est venu à l'être un jour, n'est pas éternel, n'est pas immortel. Et donc, ce qui est venu à l'être à un moment finira par disparaître. C'est le processus normal d'une créature. Alors, si la mort apparaît comme naturelle, comment peut-on dire que Dieu n'a pas fait la mort si Dieu a créé la nature? Il va falloir en fait distinguer deux réalités, que j'appellerai d'un côté la fin de l'existence terrestre et de l'autre côté la mort. J'appelle fin de l'existence terrestre le moment où la nature créée est parvenue à son terme, on pourrait dire parvenue à son terme, rassasiée de jour. J'appelle mort une violence faite au potentiel de vie de l'être créé, mais aussi la peur et l'obscurité qui naissent de cette violence faite à la puissance de vie. En effet, la fin de l'existence terrestre appelait à une nouvelle réalité, conforme au dessein de vie du Seigneur. On parle dans le projet de Dieu, justement, après que ce monde aura passé, de terre nouvelle, de cieux nouveaux. Le passage d'une réalité à une autre était appelé à se faire paisiblement. La mort, irruption violente dans le processus de la vie, obscurcit cette espérance. Elle s'accompagne de la peur, de la crainte, au lieu, pour la créature raisonnable, au lieu de remettre notre esprit paisiblement dans les mains du Père. Dans le dessein de Dieu, la puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car les êtres ont été créés pour la vie, et comme la justice est immortelle, la justice de Dieu est immortelle, il donne à chacun ce qui lui est dû, et donc il donne à chacun selon sa vocation, vocation qui est vie. arrive alors dans notre texte le deuxième extrait du livre de la Sagesse, les versets 23 et 24 du chapitre 2. Le verset 24 nous donne l'origine de la mort. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Il y a deux façons de comprendre l'expression « la jalousie du diable ». On peut la comprendre comme la jalousie que le diable a créée, ou bien comme la jalousie que le diable lui-même a éprouvée. Dans le premier sens, cela renvoie simplement à la tentation du péché originel. Par ces paroles, le diable a créé l'envie dans le cœur d'Ève et d'Adam. Il a créé l'envie pour eux de devenir Dieu, mais sans Dieu, malgré Dieu, contre Dieu, par leurs propres moyens, par leurs propres forces, par leurs propres initiatives. Ils ont eu l'impression que Dieu était un obstacle entre eux et leur plus grand bien, que Dieu ne voulait pas qu'ils atteignent leur plus grand bien. Et cette envie, ou jalousie, c'est le même terme, les a fait se saisir du fruit défendu. La deuxième interprétation est tout aussi intéressante. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde, par la jalousie qu'éprouve le diable que la mort est entrée dans le monde. Comment cela ? Remarquons que l'orgueil et la jalousie ou l'envie sont les deux seules passions qu'une créature angélique peut éprouver. Une créature angélique n'a pas de corps, elle n'est pas soumise à la luxure, elle n'est pas soumise à la paresse, elle n'est pas soumise à la gourmandise. L'orgueil et la jalousie sont des passions spirituelles qu'un esprit peut vivre. Mais en quoi peut-il y avoir jalousie du diable vis-à-vis des humains? En quoi est-ce qu'une créature angélique si glorieuse peut être jalouse ou envier l'être humain? La jalousie ou l'envie, c'est la détestation d'autrui pour ce qu'il est ou qu'il a. Comprenons bien que la jalousie, ce n'est pas le désir d'un bien qui serait en cause, ou le désir d'une bonne réputation qui serait en cause. Ce qu'on appelle envie ou jalousie, c'est la tristesse provoquée par le bien qu'a l'autre ou par le bien qu'est l'autre, perçu comme quelque chose dont je suis privé. Le bonheur de l'autre, le talent de l'autre, est perçu comme une atteinte à ce que je pourrais être, à ce que je pourrais posséder. Dans le cas de l'ange déchu, l'envie va naître de l'orgueil. Son orgueil va être la source de la jalousie qu'il éprouve. En effet, il est dit que Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, qu'il a fait de lui une image de sa propre identité, et cela est insupportable à l'ange. L'ange déchu trouve insupportable que Dieu ait voulu faire l'homme à son image. En effet, objectivement, l'être humain est une créature inférieure en gloire à l'ange. L'orgueilleux ne supporte pas qu'un inférieur puisse bénéficier du même bien que lui, de la même grâce que lui. Pour l'ange déçu, il est insupportable que Dieu ait pu vouloir se donner pleinement à l'homme, alors que l'homme lui est inférieur. Les anges aussi sont à l'image de Dieu, mais pour l'ange déçu, le fait que Dieu veuille se donner à inférieur à lui est insupportable. Et du coup, voir cela, voir cette volonté de Dieu, voir comment Dieu s'abaisse jusqu'à l'homme, lui est insupportable et crée en son cœur une envie destructrice. Comme le dit saint Augustin, l'orgueil est l'amour de sa propre excellence. En revanche, l'envie est la haine de la félicité d'autrui. C'est bien qu'on voit bien que l'envie naît de l'orgueil, car celui qui aime sa propre excellence porte envie ou à ses pairs parce qu'ils lui sont égaux, ou à ses inférieurs pour qu'ils ne lui soient pas égaux, ou à ses supérieurs parce qu'il ne leur est pas égal. Ceux qui prennent parti pour le diable font l'expérience de la même tristesse envieuse provoquée par la jalousie. Le baptisé, en revanche, va combattre l'envie par la bienveillance d'une part, par l'humilité d'autre part, et par l'abandon à la providence de Dieu enfin. La bienveillance représente le fait de vouloir du bien à autrui, de se réjouir de son succès, de se réjouir même de sa gloire, et cela est profondément ancré en celui qui a conscience de participer à un même corps, et donc ce qui se produit de bon pour un membre du corps retentit positivement pour tous les membres du corps. L'humilité, quant à elle, est une conscience acceptée de ses limites. J'ai conscience de mes limites et je les accepte. Je ne me vois ni plus grand que je suis et je ne me dénigre pas non plus. L'humilité est vécue d'autant plus paisiblement que celui qui a un talent particulier et qui l'exerce sait que s'il peut l'exercer, c'est parce que en face il y a des gens qui ont suffisamment d'humilité pour lui demander son aide. C'est une joie que d'exercer un talent, mais pour pouvoir l'exercer, il faut encore qu'en face quelqu'un ait l'humilité de nous demander son aide. L'humilité se vit encore paisiblement à mesure que grandit notre abandon en la Providence. L'abandon en la Providence, c'est la confiance que Dieu veut notre bien, qu'il prend soin de nous, qu'ultimement il veut que nous partagions sa propre vie, sa vie divine, sa vie éternelle, dans la communion de l'amour, et qu'il fait concourir tous les événements de notre vie à ce même dessein. L'abandon à la Providence est la confiance que Dieu donne toujours sa grâce suffisante, soit directement, soit à travers ceux qui nous entourent, à travers même, du coup, les épreuves que nous pouvons traverser, qui peuvent être des purifications, mais que tout cela concourt à notre bien, car Dieu nous aime, Dieu sait dont nous avons besoin, et Dieu veut nous conduire à partager sa propre vie. Au terme de cet enseignement, je vous invite à réfléchir à votre confiance en la providence de Dieu. Sommes-nous persuadés que Dieu veut notre bien? Sommes-nous persuadés et avons-nous envie de remettre notre vie dans les mains de Dieu? Avons-nous confiance que le bien qui advient à l'autre n'est pas une part dont je suis privé et dépourvu? Je vous souhaite de bons échanges.